plus écouté de Québec. Trois-Rivières. Numéro 1. Bellechasse. Portneuf. Point final.
98.1.
La fameuse Choix. Radio X. Radio X. Morel. Live.
10h10, c'est le retour du Super Jeudi dans Morel Live. Et on commence avec le grand retour, mesdames, messieurs, de Nathalie El-Grabli. Nathalie El-Grabli, bonne année.
Ben, bonne année à toi aussi, Dominique.
Je vais vous faire la bise. On peut encore souhaiter bonne année à Nathalie? On n'est pas trop en retard.
Non. Bah, écoute, moi, je trouve que les bonnes choses, on devrait les faire quand ça nous tente.
C'est vrai. Je peux te souhaiter bonne année, même au mois de juin. On va essayer ça, moi. Bonne demi-année, bonne fin d'année 2013. Comment ça s'est passé, ton temps des fêtes?
Super.
Oui?
Écoute, je ne vais pas me plaindre. Tout s'est bien passé.
En famille, à l'extérieur? Voilà.
En famille, le repos, les enfants, la famille, c'est fait pour ça, hein?
Exact. Le repos, les enfants se lèvent plus tard et on se repose tellement, ça fait tellement de bien. Ça fait tellement bien. On prend des résolutions, hein? On prend des résolutions, puis même que tu en as des résolutions pour le Québec. Moi, j'ai aimé ce que tu as fait dans le Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin. En fait, ce sont des résolutions d'êtres humains mais que tu as apposé comme une matrice sur le Québec. J'aimerais ça qu'on commence par perdre du poids, parce que tout le monde sait ça, hein, perdre du poids, alors qu'on sait très bien qu'au mois de février, ça marche plus. Mais au mois de janvier, tout le monde veut perdre du poids. L'État québécois devrait en perdre du poids. Pas sûr que ça va marcher, par exemple?
Ah ben non, ben ça c'est une autre question. Mais effectivement, on prend tous toutes sortes de résolutions. Il y a des années où on en prend, des années où on n'en prend pas. Mais disons qu'il y a des résolutions très populaires contre lesquelles bien peu de personnes peuvent s'opposer, parce que dans le fond, c'est pour notre bien. Et effectivement, toutes ces résolutions-là, non seulement on les prend pour nous-mêmes, mais très souvent, les gouvernements, puis notre gouvernement également, l'État québécois, va nous encourager dans cette direction-là, notamment celle de perdre du poids. Pendant longtemps, il y avait des campagnes publicitaires, sortez, bougez, faites de l'exercice, et ainsi de suite.
Tu t'en souviens-tu du bonhomme bleu, entre autres? C'était-tu un désastre, ça, pareil? L'espèce de furotte, là, en bleu, qui disait, va jouer dehors. Vas-y, je pense que c'était vas-y, ça se peut-tu? V-A-S-I.
Ouais, vas-y, fais-le.
Beaucoup de donnages de leçons. Et ça, le gouvernement est bien bon là-dedans.
Ah, ben c'est ça. Alors, il est très bon. Donc, je me suis dit, ben on va commencer l'année en inversant un petit peu les rôles. Et donc, je me suis permis de lui donner quelques leçons. Perdre du poids, effectivement, parce que la fonction publique québécoise a beaucoup grossi. Je peux comprendre que dans une certaine mesure, ça suit l'évolution de la population. Quand je regarde entre 2000 et 2012, donc une bonne douzaine d'années, la population augmente de 9,5%. Je me serais attendu que la taille de l'État augmente proportionnellement. En fait, c'est même pas nécessaire que ça augmente proportionnellement. Je dis d'emblée, on peut réaliser des économies d'échelle et même avoir plus de monde avec la même taille de l'État. Mais bon, admettons. Or, quand on regarde les dépenses du gouvernement, c'est une approche pour mesurer la taille de l'État, ben, les dépenses ont augmenté de 35%. Puis ça, je te dis en dollars constants, c'est-à-dire on a enlevé les effets de l'inflation, donc dollar pour dollar, ça a augmenté de 35%. Il y a quelque chose qui marche pas. Pourquoi augmenter plus de trois fois plus rapidement que la taille de la population? Il n'y a aucune raison logique, sinon que, ben justement, on est en train de construire, on l'a construit, notre État obèse, surdimensionné, et tout comme ça nous ferait, pour plusieurs d'entre nous, ça ferait pas de mal de perdre quelques kilos, ben le gouvernement du Québec aussi aurait tout intérêt à perdre quelques kilos. Peut-être pas tellement pour lui, pour ses fonctionnaires, mais pour la santé de l'ensemble de l'économie, tout à fait.
Quels pourraient être les coupables de cette prise de poids-là? Est-ce que c'est l'ajout d'un programme en particulier? On pense, par exemple, à l'assurance parentale. Il me semble que c'était pas là en 2000, ça, cette affaire-là. Est-ce qu'il y a des programmes qui ont littéralement fait exploser les dépenses, qui font en sorte que, finalement, la bédaine du gouvernement dépasse la ceinture?
Ben, un gros programme, c'est-à-dire un gros morceau de... C'est les garderies.
Ah, c'est ça.
Ça, c'est un gros morceau, effectivement. Il y a ça, mais il y a aussi un autre aspect, peut-être qu'on voit un petit peu, je veux dire, on peut voir les dépenses directement par rapport à des programmes, comme on vient de le faire, mais il y a un autre aspect qu'il faut prendre en considération, qui fait peut-être un peu plus allusion aux intérêts des gens qui travaillent dans la fonction publique, c'est que dans le fond, un organisme, un ministère, une entité publique quelconque, a tout intérêt à préserver son existence. Oui. Comment préserver son existence? C'est justement en prenant en prenant du poids, en prenant de la taille, en demandant toujours des budgets un petit peu plus gros à chaque année, de façon, en fait, c'est une façon de justifier un petit peu leur existence.
Et ça, c'est une propension naturelle dans les gouvernements. Alors, on va créer un programme pour ci, pour ça, contre l'homophobie, contre l'intimidation, voilà. Et ci, et ça, puis contre l'intimidation des aînés, des femmes, des enfants, tu comprends-tu? Tu peux segmenter tes besoins. Bref, il y a toujours des besoins pour un gouvernement et c'est comme ça que les dépenses explosent.
Ben, c'est exactement ça. On identifie quelque chose, un phénomène qui a peut-être toujours existé, et puis un phénomène avec lequel les gens peuvent peut-être trouver eux-mêmes leur solution. Mais non, on en fait une crise nationale. Et quand il y a une crise, ben, il faut que l'État fasse quelque chose.
Ah oui.
Et hop, on prend encore quelques kilos. Puis d'année en année, c'est comme si toi puis moi, chaque année, on prend 10 livres. Ben, on se revoit dans 10 ans, on est pas mal, on est pas mal gros.
Heureusement, on se maintient. En fait, c'est mon cas, c'est le tien. Mais on se maintient. On s'est maintenu l'année passée. En tout cas, dans mon cas, je me suis maintenu. Au niveau du poids, c'est pas pire. Je touche du bois. Il n'y a pas grand bois ici, remarquez, mais en tout cas, je me comprends. Se mettre en forme. Ça, c'est la deuxième bonne résolution pour le Québec. Se mettre en forme et vous parler de l'écart de 70 heures relativement à la moyenne de l'ensemble du Canada. Est-ce que ça, c'est la productivité des fonctionnaires? C'est quoi ça exactement?
Non, la productivité des fonctionnaires comme la productivité dans le secteur des services est vraiment difficile à mesurer. C'est comme si je te dis, quelle est la productivité d'un prof? Ben là, tu mesures ça comment? Est-ce que c'est le nombre d'étudiants qu'il voit, le nombre d'étudiants qui réussissent? Non, on y va avec quelque chose de beaucoup plus facile à quantifier, c'est-à-dire le nombre d'heures qui est travaillé annuellement. Puis quand on regarde les employés du secteur public au Québec par rapport aux employés du secteur public dans le reste du Canada, en moyenne au Canada, eh bien c'est les employés du secteur public québécois qui travaillent le moins d'heures de tout le Canada. Puis on parle d'un écart de 70 heures par rapport à la moyenne. Si je compare par rapport aux employés du secteur public de l'Alberta, c'est un écart de 139 heures. C'est à peu près un mois d'écart. En d'autres termes, les employés du secteur public de l'Alberta travaillent un mois de plus que les nôtres.
Pourquoi?
Ah, ben voilà, bonne question. Effectivement, pourquoi? Ben peut-être parce que leur syndicat a été moins gourmand ou avoir un État peut-être qui a été plus strict, mais l'écart est très important. Et si on compare, bon, on se dit ok, entre travers du secteur, mais si je compare aussi par rapport aux Québécois moyens, toi puis moi et tous les autres qui participent au marché du travail, si je compare les employés du secteur public, disons la semaine de travail, pas la semaine, mais l'année de travail d'un employé du secteur public par rapport à celle d'un travailleur québécois, il y a un écart de 32 heures, donc une bonne semaine de différence. Puis là encore, on pourrait se dire, bon, on se compare pas à l'Alberta, on va dire, oh, ok, l'Alberta, ils ont notre mentalité, ils sont plus ci ou un peu moins ça, peu importe. Mais là, on compare par rapport à nous-mêmes. Et là, ben, il y a une bonne semaine d'écart.
Mais pourquoi eux autres sont syndiqués en Alberta? Mais ici, c'est comment on compte ça? Est-ce que ce sont les congés, les semaines sont plus courtes? Est-ce que ce sont les pauses? Et où Monique est à sa pause, elle fait une pause, elle est en train de prendre sa cigarette, elle est à sa pause. Est-ce que c'est les pauses?
Tout est pris en considération. C'est pas le nombre de semaines, mais vraiment le nombre d'heures qui est travaillé.
Oh boy.
Alors, le nombre d'heures qui est travaillé à l'intérieur de la semaine, à l'intérieur de la journée, ben, quand tu fais la somme au bout du compte, effectivement, si tu as des plus longues pauses, ben, tu te retrouves à travailler moins d'heures.
J'ai hâte d'aller à ma pause.
Alors, je me dis, si nos employés se mettaient en forme, hein, on n'arrête pas de nous dire de nous mettre en forme, ben, soyons un petit peu plus actifs aussi à ce niveau-là. Imaginons un petit peu tous les services que notre État pourrait nous fournir si les fonctionnaires travaillaient, je dis même pas comme les fonctionnaires québécois, albertains, oublions ça.
Comme la moyenne.
Voilà, juste comme la moyenne.
Exact.
Puis, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'ils sont moins doués pour travailler moins d'heures? Pas du tout. Est-ce que cet écart-là se justifie par un gain de productivité extraordinaire? Regarde, j'ai pas de chiffres sur la productivité.
Bon, moi, c'est travailler plus. Moi, j'en croise ici des fonctionnaires. Généralise pas, mais dans l'ascenseur à Radio X, on est juste à côté d'un édifice gouvernemental, la Régie de l'assurance maladie. Il y a du monde là-dedans qui a de la misère à se traîner les pieds. Là. Beaucoup de madames qui ont des romans de Daniel Steele aussi. Là. Tu as l'impression que la fille, elle s'en va-tu lire un roman de Daniel Steele ou elle s'en va rendre un service pour la communauté, pour le public? On n'est pas toujours sûr, là. Pas toujours certain, là.
Alors voilà une petite mise en forme. Hein?
Dans les autres résolutions, Nathalie, que tu pourrais passer en revue rapidement,
ouais.
Te payer ses dettes, être plus indépendant, apprendre quelque chose de nouveau.
Ouais.
Et se mêler de ses affaires. Peut-être ouais. Payer ses dettes.
Payer ses dettes, écoute, il me semble que c'est un must. On n'arrête pas de nous dire. Il y a même sur le site du gouvernement du Québec, je me souviens plus exactement quel est l'organisme ou le ministère qui fait ça, mais qui donne des leçons finalement sur c'est pas bien d'être trop endetté, voici ce que l'on pourrait faire, voici les aides qu'il y a pour réduire ses dettes. Ben oui, mais regarde, la dette par habitant, hein, vraiment la dette par habitant, entre 1975 et 2011, elle a augmenté de 600%. Là encore, c'est en dollars constants, donc j'ai enlevé les effets de l'inflation.
Oui.
Ça voudrait dire que au moment où on se parle, chaque personne, chaque Québécois, du nouveau-né jusqu'au vieillard, a une dette de 23 000 $ par personne. Évidemment, c'est pas le nouveau-né qui travaille, c'est pas les gens à la retraite qui participent non plus au marché du travail. Donc si je regarde par travailleur, ouais. Ben là la dette elle monte à 32 000 $ par Québécois, à 63 000 $ par Québécois qui participe au marché du travail. Ça voudrait donc dire que si demain matin on voulait payer la dette, tous ceux qui participent au marché du travail, il faudrait qu'ils sortent de leur poche 63 000 $. C'est énorme.
Et il n'y a rien qui nous démontre qu'en 2013, il y aura des choix douloureux qui seront faits.
Non.
Je te dirais même à la grandeur de la planète. Aux États-Unis, c'est triste ce qui se passe actuellement, le clivage au Congrès. Tu sais, lorsqu'on parle de prise de décision importante, des choix douloureux pour couper. En France, c'est la même chose. Les gouvernements semblent incapables par eux-mêmes de réduire le panier de services parce que le politicien a une propension à vouloir toujours se faire réélire. Donc, il veut pas couper des programmes, veut pas. C'est la nature humaine, on dirait, au bout du compte, Nathalie, qui fait ça.
Ben, la nature humaine, c'est le fonctionnement du marché politique.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien dit. Ouais.
Parce que la nature humaine, toi et moi, si à un moment donné, on se réveille et on est vraiment trop endetté, je pense qu'on va se dire, oh, OK, on coupe la carte de crédit. Je veux dire, tous les jours, il y a des gens qui prennent conscience de leur situation financière et qui font le virage à 180.
Mais c'est la dynamique du marché politique, c'est-à-dire les politiciens veulent être réélus, à moins de s'appeler Chris Christie, qui a dit ouvertement qu'il ne voulait pas se faire réélire. Puis encore là, je ne suis pas très sûr de ça. Là. Tout politicien veut être réélu par nature.
Il veut être réélu
et être aimé.
Et son horizon de temps, sa perspective, c'est pas la même perspective que on peut avoir quand on a une approche économique ou quand on regarde sa propre situation. D'un point de vue politique, l'horizon de temps, dans le meilleur des cas, c'est 4 ans. Hein, genre, tu viens de te faire réélire aujourd'hui, tu veux que les choses se passent correctement pour les 4 prochaines années. Après moi, le déluge. Ce qui se passe et ce qui crée des torts, c'est que très souvent, la classe politique, même si elle sait qu'il y a telle décision qui vaut la peine d'être prise, mais qui est indispensable pour le bien-être futur. Mmh. Sauf que si la décision elle est douloureuse tout de suite,
il la repousse à plus tard.
Surtout si elle est douloureuse tout de suite, mais que les bénéfices vont venir dans 3, 4, 5 ans, ben regarde, je vais quand même pas prendre une décision qui va me faire haïr des contribuables ou des Québécois en général, pour que ce soit mon successeur qui récolte les fleurs.
Il faut que ça rapporte avant la prochaine élection au maximum.
Ouais, voilà. Être plus indépendant, et celle-là aussi, je l'entends très souvent, des gens qui disent « Ah non, je veux me débrouiller par moi-même, je veux plus d'autonomie. » Notre gouvernement, lui, en permanence, il nous dit qu'il veut être plus indépendant. Puis c'est correct. Moi, j'ai absolument rien contre ça. Sauf que, comment est-ce qu'on veut couper le cordon ombilical avec Ottawa quand, en termes nets, en termes de péréquation, on reçoit 943 $ par habitant à ce titre-là. Ça marche pas. Moi, ce que j'aimerais vraiment, ça, je trouverais que ça serait une belle résolution, c'est que notre gouvernement nous dise, regardez, on aimerait ça, aller vers l'indépendance. On va faire comme si on l'était.
Oui, la dépendance économique.
C'est ça. On va faire comme si on l'était.
On va couper la dépendance économique.
De la péréquation que l'on reçoit, on va reprendre la partie qu'on avait payée en impôt à Ottawa. Et la partie que le gain net, on n'y touche pas. Pourquoi pas le mettre dans un compte qui nous servira au moment où on voudra se séparer, qui servira à payer notre partie de la dette du gouvernement fédéral, par exemple.
Ça, ça serait tellement brillant. Ça serait un geste politique habile, même pour le PQ qui fait la promotion de la souveraineté, tout en sachant très bien qu'ils ne feront pas le référendum dans 2 semaines. Puis même pas dans 3 ans. Là. Mais il y a la rhétorique souverainiste, mais ça s'inscrirait même dans la rhétorique souverainiste de dire on touche pas à l'argent d'Ottawa. On garde ça, on the side. Quand je dis l'argent d'Ottawa, on comprend que c'est l'argent des provinces riches. Saskatchewan et Alberta, en l'occurrence, pour 2013. C'est ça, Nathalie?
Oui,
les
exactement.
Half provinces, c'est ça? Oui. Il y en a 2 ou 3, peut-être la Colombie-Britannique, mais encore là, BC, on n'est pas trop sûr. Est-ce qu'ils sont de notre bord ou du bord des half provinces, comme on dit, des provinces riches, BC, Colombie-Britannique? Est-ce que tu le sais? C'est serré, hein?
Je sais que j'ai les chiffres pas trop loin, ouais, mais de mémoire, sincèrement, je m'en souviens pas. Je sais que l'Ontario est revenu de notre bord, là, il récolte la péréquation. Les provinces maritimes, oui, c'est sûr. Ouais. La Colombie-Britannique, je suis pas tellement
sûr.
Ils ont de la misère hein, depuis quelques années.
Oui.
Donc, je suis pas sûr à 100%.
Pas certain. Mais de toute façon, ces résolutions-là ne seront pas tenues. C'est le fun qu'on s'en parle. Mais elles ne seront pas respectées. Malheureusement, à moins que tu m'annonces le contraire, mais je pense pas.
Ah, j'oserais pas. Mais je me dis, bon, c'est vrai que on fait souvent des jokes sur le fait qu'on prend des résolutions et qu'on les tient pas au mi-janvier, fin janvier, on a abandonné ça. Sauf que on a au moins le mérite, toi puis moi et tous les autres Québécois, d'avoir fait un exercice de réflexion, de se dire, ok, qu'est-ce qui marche pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais changer?
D'introspection.
Voilà, X, Y, Z. On fait un effort, on échoue dans notre effort, très bien. Très souvent, ce qui arrive, surtout si la même résolution, elle revient plusieurs années consécutives, on échoue la première, la deuxième, la troisième fois, mais à un moment donné, on s'accroche. Mais notre gouvernement, il fait même pas l'effort, l'exercice de dire, ok, qu'est-ce qu'il faudrait que je change? En fait, on est comme sur une tendance, depuis la Révolution tranquille, une tendance à nanny state, à l'état-providence, où on veut prendre en charge à peu près tous les aspects de la vie du citoyen. Mais
sans se questionner.
On se questionne pas. De temps en temps, on met un petit peu le frein sur la pédale. À d'autres moments, on accélère, mais on est toujours dans la même direction. Alors ça, je trouve ça un petit peu dommage. Je me dirais, ça ferait au moins preuve disons, d'un peu de bonne foi de faire un exercice. Là, on va avoir un sommet sur l'éducation. On peut remettre tout en question.
Ouais, non,
ok, mais moi, je pense que...
Les dés sont pipés.
Ah ben oui, les dés sont pipés. Oh là, oui. Tellement pipés, c'est... Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais un bon sommet qu'on devrait avoir, c'est un sommet sur le rôle de l'État. Hein? On pourrait se poser la question.
Essentiel.
Depuis un demi-siècle qu'on avance dans une direction sans trop se poser de questions, ben faisons un autre exercice et on se dit, réfléchissons. Qu'est-ce que l'État devrait faire? Quelles sont les fonctions qui lui incombent? Quelles sont les fonctions accessoires? Quelles sont celles que la population ne veut pas? Hein, où on veut justement qu'il se mêle de ses affaires, le gouvernement, puis qu'il nous laisse nous débrouiller tout seul. Parce que je trouve ça un petit peu incroyable. On a le droit de voter. Gouvernement du Québec, en fait, c'est-à-dire le PQ veut même faire baisser l'âge du droit de vote à 16 ans. Donc, il dit on est assez intelligent pour voter pour quelqu'un, mais on n'est pas assez intelligent pour savoir qu'est-ce qu'on met dans notre assiette.
Mais un sommet sur le rôle de l'État organisé par l'État, c'est assez improbable.
Ben, on pourrait...
Dépendant du parti au pouvoir, c'est ça. Ça joue, hein.
Et effectivement, tout comme le sommet sur l'éducation, tu disais les dés sont pipés. Ben oui, ils sont pipés. Ils sont organisés par un État qui veut mettre la main. Je pense que c'est comme le dernier rempart dans le monde de l'éducation. L'État s'occupe des garderies, du primaire, du secondaire, du cégep. Il restait quoi? Il restait l'université. Là, on essaye un petit peu. Et on s'associe avec qui? Avec l'Institut du Nouveau Monde. Waouh, ok. Et quand on regarde les participants... Et la proportion occupée par les différentes catégories de participants, les syndicats sont surreprésentés.
Ben oui.
Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je réfléchis très 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 fort pour essayer de comprendre pourquoi ils sont représentés à ce point-là. Je suis pas encore arrivée avec une...
Surreprésentés. Puis le ministre de l'Éducation qui arrête pas de faire la leçon au recteur en disant, vous savez pas compter, c'est pas vrai, c'est pas une vraie dette, c'est pas un vrai déséquilibre de financement. C'est donc à ce moment-là, les dés sont pipés, en garantissant le gel des frais de scolarité jusqu'en 2014 en plus.
Voilà.
Et nous, en ce qui nous concerne, en terminant, une résolution, faut y aller, là, prendre un verre ensemble en 2013, faut arrêter de tatouiner, là.
Ça, c'est une résolution qu'on va tenir.
Ça, oui. À Québec ou à Montréal?
Ben, regarde, le premier qui se rend chez l'autre.
Dans le Vieux-Montréal. On fera pas ça à Drummond. Au Madrid, à Drummond, une liqueur, peut-être? On commençait par ça. À mi-chemin. Non, ça y est. On attend-tu le nouveau Madrid?
Ouais, attends le nouveau. Attendez le nouveau. Il va y avoir des gros dinosaures.
À l'ombre de Bigfoot. Non, on va faire ça plus classique, peut-être?
Ben, regarde.
On fera ça plus classique.
L'important, c'est qu'on se rencontre.
C'est vrai. On fait ça en 2013, garanti. Et on va la tenir. Merci beaucoup, Nathalie.
Merci à toi.
Merci, bye-bye. Bonne journée. Nathalie El-Grabli, mesdames, messieurs. Et en ce super jeudi, il fait quand même doux sur le Québec. On est bien. Et vous êtes dans Morelaire. What you see is what you get.